Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour à tous. Bonjour, soyez les bienvenus sur RTL pendant que Pascal Pro quitte ce studio en disant non, je suis vraiment pas dur envers moi-même. Merci Pascal, à demain. J'espère que vous avez passé le meilleur des week-ends possibles dans ce drôle de monde. Un monde qui subit, un monde qui se bat et qui s'élève heureusement contre la violence, le racisme et les injustices. Soyez les bienvenus sur RTL. Nous sommes ensemble pendant une heure et toute la semaine. D'ailleurs, vous découvrirez tout le programme sur notre page Facebook au fil des jours. 3210, les réseaux sociaux, le pigeon voyageur et hop, sujet du jour. Et si on se foutait un peu la paix ? S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie, a écrit Oscar Wilde. Nous sommes pourtant bien souvent plus doux et plus indulgents envers les autres qu'envers nous-mêmes. Et cette fameuse histoire d'amour avec soi laisse plutôt la place à une forte exigence, une sévérité implacable et des critiques à foison. Alors, pourquoi sommes-nous si durs avec nous-mêmes ? Pourquoi employons-nous à notre endroit des mots que l'on adresserait à personne d'autre ? Comment être un petit peu plus bienveillant envers soi ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Flavia Maslin, bonjour.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, Flavia, et éditorialiste et conseillère éditoriale à Psychologie Magazine, amie partenaire donc de cette émission. C'est Oscar Wilde a beau le dire, hein, ça peut durer toute une vie. En même temps, ça dure le temps de trouver la formule finalement pour s'apprécier soi-même.
Oui, c'est vrai que c'est l'œuvre de toute une vie et ce qui est difficile, c'est d'arriver à trouver le bon ajustement du curseur. Ni trop, ni trop peu. C'est pas facile.
Est-ce qu'on met du temps déjà à faire connaissance avec soi ?
Ça dépend vraiment des écoles, des points de vue. C'est-à-dire que ça peut être une mission totalement impossible ou se dire que connaître les grandes lignes de ses plaisirs, de ses déplaisirs, de ses limites et de ses aptitudes, eh bien cela suffit. D'autres, au contraire, ont besoin d'aller très profondément dans leur histoire, dans leur tempérament, dans leur personnalité. Et on sait aujourd'hui que ce n'est pas forcément une condition sine qua non du bonheur, en tout cas.
Flavia, est-ce que l'on s'aime quelque part aussi comme on a été aimé par nos parents ?
Oui, ça, je crois que tous les courants confondus de la psychologie, de la psychanalyse sont d'accord pour reconnaître que ce qui se passe dans les messages corporels, non verbaux, entre le parent, la mère le plus souvent, mais pas forcément, et l'enfant lui donne son identité, hein, ce qu'on appelle son narcissisme, et que plus il est vécu comme un enfant qui comble ses parents, qui émerveille ses parents, plus il va se sentir évidemment dépositaire de ce pouvoir que l'autre lui accorde, et donc mieux il va se traiter. Mmh. Et l'inverse est malheureusement également vrai.
Oui. On va accueillir Hélène justement, si vous le voulez bien, sur cette antenne. Elle habite à Strasbourg. Hélène, bonjour.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue. Merci d'être avec nous, Hélène. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Quand je dis qu'on emploie parfois à notre endroit des mots que l'on adresserait à personne d'autre, est-ce que vous vous sentez concernée ?
Oui, effectivement, c'est vrai que je pense avoir un jugement vis-à-vis de moi-même qui est très dur et que je n'ai pas vis-à-vis d'autres personnes. Donc c'est vrai que ça me parle, effectivement.
On parlait avec Flavia Maslin de l'éducation que l'on a reçue. Je lui demandais si on s'aimait comme on avait été aimé par nos parents, parce que c'est vrai que l'on entend parfois des choses enfants qui nous marquent à vie et qui reviennent à nous à des moments parfois un petit peu plus vulnérables de l'existence. Comment ça s'est passé pour vous, Hélène ?
Alors, dans mon cas, j'ai été aimée. J'en suis persuadée, que ce soit par ma mère, par mon père. Par contre, je pense que ce qui a beaucoup joué pour moi, alors bien sûr, j'ai parfois entendu des petites choses, mais qui n'avaient pas du tout pour but de me faire ressentir quelque chose de négatif. Je dirais que c'était des petites remarques, voilà, qui tout simplement étaient malvenues, mais bon, comme ça arrive, je pense, pour tout le monde. Par contre, en ce qui me concerne, je crois que mes parents ne s'aimaient pas eux-mêmes, c'est-à-dire mon père ne s'aimait pas, il a eu un parcours difficile, ma mère aussi pour d'autres raisons, et je pense que toute cette difficulté déjà à vivre eux en tant qu'individu, moi c'est quelque chose que j'ai perçu Ben, on le dit souvent, hein, quand on est enfant, on est comme une éponge. Hein, et ouais. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti, que je peux encore ressentir aujourd'hui. Mon père est décédé, mais ma mère est là, heureusement encore. Et je sais qu'il y a toujours des choses qui sont difficiles dans sa vie. Et voilà, je ne peux pas ne pas le ressentir.
Vous avez, alors, vous les ressentez, vous les avez partagés quand vous étiez enfant avec votre père. Vous avez des images de votre père. Ça se traduisait comment, en fait? C'était une insatisfaction par rapport à ce qu'il réalisait.
C'était un mélange, je dirais, de tristesse, d'amertume, de déception. Il y avait un petit peu beaucoup de choses, aussi un petit peu de colère rentrée en lui-même. Pour ma mère, c'était des expériences difficiles, notamment, alors il y en a un qui évidemment était très très marquant, c'est-à-dire qu'elle a eu un accident très jeune de scooter qui a eu beaucoup d'impact physiquement pour elle, et je sais que physiquement, par exemple, elle ne s'est jamais acceptée. C'est-à-dire que ce qui est pourtant un événement extérieur, c'est quelque chose qu'elle ne s'est jamais pardonné et qu'elle n'a jamais supporté le regard des autres. Et ça, même si j'ai pu le comprendre, j'ai pu en parler avec elle, je sens bien que ça reste douloureux. Et voilà, pour autant, je ne l'accuse pas du tout, mais je pense que j'ai tellement baigné là-dedans que finalement, c'est un comportement que je reproduis un peu vis-à-vis de moi-même.
On va se retrouver dans un instant, Hélène. Hein, vous allez nous expliquer justement comment ça se traduit chez vous. Mais ce que l'on entend, effectivement, est très intéressant. C'est un éclairage différent de ce que j'imaginais. C'est comment vit-on, comment grandit-on lorsque l'on voit ses parents qui déjà eux-mêmes ne s'apprécient pas, ou en tout cas ont une histoire tourmentée avec eux-mêmes. On va se retrouver dans un instant, Hélène, si vous le voulez bien, avec Flavia Mazelin sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
En compagnie de Flavia Mazelin, qui est journaliste et conseillère éditoriale à Psychologie Magazine, partenaire de cette émission qui nous propose dans son nouveau numéro 8 exercices pour faire ami-ami avec soi. Car effectivement, c'est parfois toute une vie que l'on consacre à faire connaissance avec soi-même et à surtout être bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes. Hélène est en ligne avec nous. Hélène, vous nous avez parlé de vos parents qui visiblement ont toujours eu une histoire personnel assez tourmenté, et c'est selon vous ce qui pourrait expliquer que vous soyez aussi difficile envers vous-même. Ça se traduit comment chez vous, Hélène?
Alors déjà, je voulais juste préciser que ça peut être selon moi une explication.
Bien sûr.
Après je voilà,
c'est, bien ça, sûr, non mais c'est, ça a une influence,
ça,
bien sûr,
voilà.
J'entends, non mais ça a une influence quand même, hein. Moi je pense que effectivement on grandit dans un bain à une certaine température, et cette température ne vous apparaît comme étant la plus normale. Et effectivement je me dis que ça a un impact, sans évidemment tout expliquer ni tout résumer. J'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Alors comment ça se résume,
ça se traduit,
comment ça se concrétise, je dirais que c'est un peu sur tous les aspects de la vie. Alors, j'ai entendu, vous avez cité un témoignage avant où je me retrouvais aussi complètement, c'est-à-dire que ça peut être déjà dans le reproche de certaines décisions que j'ai prises. Parfois, je me remémore des décisions que j'ai prises, par exemple, au tournant de mes études, des décisions qui pourtant ont eu du sens, mais voilà, j'aurais toujours des choses à me reprocher parce que, alors je ne sais pas, j'ai pas été assez courageuse sur le moment, parce que peut-être je suis passée à côté d'opportunités. Enfin, ça peut être ça, ça peut être une exigence, qui va se traduire par l'impression de ne pas mériter certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, sur un plan purement matériel, je ne me considère pas du tout comme à plaindre. Je suis pas non plus dans une situation aisée, mais voilà, je pourrais m'offrir certaines choses que je ne fais pas, que je me refuse, parce que je sais pas, j'ai l'impression de ne pas le mériter, de ne pas être assez je sais pas, dans une démarche assez correcte pour mériter ces choses-là. Donc ça peut être sur ce plan-là, ça peut être après, je dirais, dans la vie professionnelle, pour laquelle je vais avoir une exigence très très forte en termes de qualité de travail, en termes de quantité de travail. Donc forcément, ça a un impact aussi sur le reste de la vie. Et alors sur ce point-là précisément, c'est dur d'établir une relation amoureuse quand soi-même on s'estime pas le mériter, encore une fois. Donc voilà, ça a des impacts un peu sur tous les aspects de la vie. Je peux pas dire que ça m'empêche de vivre parce que j'ai entendu ce que Flavia disait tout à l'heure. J'ai appris à me connaître et je suis moins difficile avec moi que je ne l'étais il y a 20 ans, par exemple. Mais ça reste, voilà, ça reste toute une aventure et chaque jour est un peu une étape supplémentaire et voilà, c'est un peu comme ça que je le vis.
Si vous deviez vous décrire, si vous deviez m'expliquer un petit peu davantage qui vous êtes, comment est-ce que vous pourriez, quels sont les mots que vous pourriez employer?
Alors ça, c'est difficile parce que je vais avoir une réponse officielle que je vais donner à mes employeurs, à mes collègues, parfois même à mes amis. Ça dépend de l'intimité dans laquelle on rentre. Et puis après, je vais avoir le message que j'ai vis-à-vis de moi-même, qui sera pas du tout le même. Donc j'aurais du mal à vous répondre parce que
c'est-à-dire que vous avez un message, vous avez en fait une parole rodée.
Ouais.
Hein, voilà. Il y a une parole de devanture, ouais. mais à l'intérieur, vous vous dites, est-ce qu'un jour je vais pas être démasquée, quoi? Hein,
c'est-à-dire. Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
C'est fou.
C'est pas. Alors, je crois d'ailleurs que vous avez parlé un peu du syndrome de l'imposteur.
Absolument,
il y a quelques temps.
Je viens de le noter en vous écoutant,
ouais.
Justement.
Alors, je sais pas si c'est ça. Je pourrais pas l'affirmer, mais c'est parce que je n'ai pas l'impression que je me montre telle que je suis. J'ai pas l'impression de voler une position qui ne serait pas la mienne. C'est, en tout cas pour moi, ça se joue pas là. Mais par contre, j'ai effectivement l'impression de jouer un rôle. C'est-à-dire que je sais être souriant, j'aime beaucoup d'ailleurs être en relation avec d'autres personnes, mais je me montre d'une certaine façon. Je ne vais pas montrer toutes mes fragilités, déjà parce que je pense que ça n'intéresse pas les autres, et puis parce que j'ouvrirais une brèche qui serait beaucoup trop grande à assumer ensuite.
Est-ce que vous êtes plus indulgente vis-à-vis des autres que vis-à-vis de vous-même?
Ah mais complètement, c'est-à-dire que ce soit, enfin sur tous les aspects que j'ai évoqués tout à l'heure, je n'ai pas du tout la même approche pour les autres, ouais. Quels qu'ils soient, que ce soit des amis, des membres de la famille, des collègues, je vais être beaucoup plus dans l'empathie, dans la compréhension, c'est-à-dire que je remets toujours les choses dans leur contexte, ce que je ne fais pas pour moi.
Bah oui, on l'a bien compris.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes totalement vous-même? Ce sera ma dernière question, Hélène, et ensuite on pourra parler avec Flavia Mazelin.
Eh ben oui, c'est drôle parce que j'y ai pensé juste avant l'émission. Moi-même, je n'ai pas d'enfant, mais il y a des enfants dans ma famille dont je suis très très proche. Et alors, c'est fabuleux parce qu'avec les enfants, et même d'ailleurs les enfants que je connais moins, j'ai une sorte d'ouverture qui se crée quasiment instantanément. Et oui. D'ailleurs, tous mes proches me le disent, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de révélation.
C'est dingue.
Parce que dans ces moments-là, mais quand je vous dis ça, c'est même des bébés que je croise dans la rue. C'est-à-dire qu'ils vont m'accrocher du regard et je ne vais pas les lâcher parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, il y a tout le reste, en fait, n'a plus d'importance. C'est-à-dire que on retourne là à l'essentiel pour moi, qui est d'arriver à vivre, de manger, de rire, de s'aimer, de jouer. Et voilà. Et
c'est
dans ce
moment-là
que c'est ça.
Il n'y a pas de jugement chez un enfant. Un bébé ne va pas nous juger, un tout petit ne va pas nous juger. Il va juger pour le bien qu'on lui fait. Mais c'est tout, quoi. C'est ça.
Ouais.
Et moi, je trouve que vous êtes super. Franchement, je vous le dis, mais c'est vrai, on a envie de faire votre connaissance, Hélène. C'est dingue, quoi. Vous voyez? Alors, on va se retrouver dans un instant, parce que je suis sûre que Flavia Mazelin, elle vous écoute attentivement, elle est comme moi, elle doit se dire, oh, non, mais Hélène, c'est une fille géniale. Et pourtant, vous ne vous faites pas de cadeaux, visiblement. On se retrouve tout de suite sur RTL.
RTL.
Flavie Flamand. 14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Alors une autre Hélène nous écrit, l'autocritique ça me connaît, je suis rarement satisfaite de moi alors que je me réjouis de petits riens pour les autres. Est-ce qu'on peut changer ça parce que je m'épuise? Qu'est-ce que ça doit être fatigant Hélène, votre vie. C'est vrai, franchement, ce travail. Alors, je vous dis ça et en même temps, je l'ai vécu tellement longtemps, mais c'est de l'auto-sabordage qui, quand même, nous empêche de vivre. Tiens, il y a Corinne qui nous a appelé au 3210. Voilà un sujet qui vous touche tous. Flavia Mazelin, vous êtes d'accord avec moi? On a trop envie de rencontrer Hélène.
Ah mais oui, bien sûr.
Oh là là.
Et ce qui me frappe dans son témoignage, qui recouvre quand même toutes les facettes de l'auto-maltraitance, hein, c'est-à-dire elle ne se traite pas du tout. Hélène, vous ne vous traitez pas du tout en amie. Moi, je souffre quand j'entends Hélène parce que j'entends quelqu'un de formidable, d'intègre, ouais, de super sensible, de très exigeant. On entend l'honnêteté, la délicatesse, l'empathie. Moi, je pense, alors je suis pas là pour faire l'analyse sauvage et faire la psy que je ne suis pas, mais j'entends une grande hypersensibilité. Peut-être il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là. Et surtout, j'ai envie de rebondir sur cette phrase qu'elle a prononcée, qui est, alors ça ne m'empêche pas de vivre, mais et moi j'ai envie de la compléter en disant, Hélène, ça ne vous empêche peut-être pas de vivre, mais de vivre bien, certainement, ça vous empêche. Donc cette hyper exigence et ces reproches, là, et la solution en forme de prescription presque qui s'impose, c'est apprendre, mais en s'entraînant, comme on pratiquerait un art, un sport, un peu tous les jours, à se traiter en ami. Ça, c'est vraiment un exercice qui a été validé, expérimenté dans le cadre de la psychologie positive, que la chercheuse Christine Neff, qui est la chercheuse et professeure de psychologie américaine, qui a écrit S'aimer, un livre que je conseille à Hélène, S'aimer ou comment se réconcilier avec soi-même, et bien dit que quand on commence à se traiter en ami, on change vraiment profondément, radicalement et durablement de position. Et se traiter en ami, c'est commencer par essayer d'appliquer les conseils qu'on donnerait à sa meilleure amie. Exactement. Qui nous dit qu'elle est fatiguée, qu'elle se sent dans l'imposture, et noter, voilà, je me sens dans l'imposture, ah bon, et là on conseille cette amie qui se sent dans l'imposture, alors donne-moi des exemples très concrets, très précis, des fois où tu as été dans l'imposture. Bon, il n'y en a pas. Mmh. Et comme ça, on devient son double en version meilleure amie. Il y a aussi autre chose, on identifie la petite voix intérieure critique et on la remet à sa place. Or, ça va être avec une formule de son choix, je t'ai reconnu toi, tu es toujours là pour me démotiver, me rabaisser, me dévaloriser, me saper le moral. On peut aussi lui donner un nom, oh je t'ai reconnu toi, papa, maman, avec bienveillance, hein, mais quand même, me dire ça. Et c'est cette série de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes envers soi-même qui opère, alors un travail sur soi bien sûr, mais déjà si au quotidien on s'applique à mettre en place une série de petits comme ça dispositifs d'autocompassion, eh bien on va voir qu'on va goûter à cette rondeur de la relation avec soi-même et qu'on aura de moins en moins envie d'être son propre bourreau et juge.
Et on s'aligne, j'aurais tendance aussi à dire. Hein. Oui. C'est-à-dire que du coup, on s'assume beaucoup plus facilement, Flavia Mazelin. C'est-à-dire qu'on est, soi. C'est... Parce qu'il y a effectivement le fait de s'aimer, mais avant tout, c'est une acceptation de ce que l'on est réellement.
Bien sûr.
Et c'est en ça qu'on est bienveillant. C'est de ne pas vouloir toujours se changer, se modifier, alors qu'en soi, on n'a pas à le faire. Et puis le du comment. Je trouve que c'est hyper intéressant. Hélène, elle nous a dit deux choses. Un, il y a certaines choses que je ne m'offre pas au motif que je ne les mérite pas. Alors faites-le une fois, Hélène. Vous verrez, ça fait un bien fou, quoi. Ça fait du bien. Et puis surtout, pas de culpa, ça fait du bien. Et puis après, Et puis cette histoire des enfants. Un enfant ne nous regarde pas de la même façon qu'un adulte. Il n'y a pas de jugement, Flavia.
Bien sûr, c'est exactement ce que vous avez dit. L'enfant, c'est cet intérêt, affection, curiosité, amour absolument inconditionnel. Il n'y a aucune condition qui est attachée à la relation qui s'opère dans l'immédiateté, dans le feeling, dans la sensibilité non verbale. Enfin tout. Et donc là, on entend bien Hélène qui s'épanouit et qui elle-même. Et je suis sûre qu'elle est pleine de vie, elle est joyeuse. Elle doit être enthousiasmée par des tas de choses idéalistes, hein. C'est pour ça que je pense que beaucoup d'hypersensibles sont dans l'auto-maltraitance, ils veulent à tout prix, ils ont du mal à s'accepter eux-mêmes parce qu'ils veulent se faire accepter par les autres, donc ils sont dans des torsions qui les font se se dire je suis un imposteur alors que pas du tout, c'est une suradaptation.
Mais oui.
Douloureuse pour se faire aimer, accepter de l'autre, comme si s'ils se présentaient tels qu'ils étaient, eh bien ils ne seraient pas accueillis, appréciés. Donc c'est vraiment
tout
un mécanisme à déconstruire pièce par pièce et en s'entraînant au quotidien, vraiment.
Hélène, au boulot.
Oui.
Non mais en plus elle a 38 ans quoi.
Ouais. Alors, si j'ai juste une minute, je rebondis par rapport à quelque chose que vous avez. 30 secondes,
oh,
d'accord.
Oui, je suis vraiment désolée.
Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que ça n'est pas mon activité essentielle, mais je donne des cours depuis maintenant plusieurs années. Mmh. Et ce rapport avec des plus jeunes, avec des âges très différents, m'a beaucoup, beaucoup apporté.
Ouais,
parce que je me suis revue dans leurs yeux et il y a un effet de miroir qui m'a vraiment beaucoup apporté. C'est-à-dire que moi-même, j'essaie de les préserver de toutes ces impasses vers lesquelles je suis allée. Et du coup, vers eux, j'ai pu me montrer, oui, plus fragile. Et en fait, je vois que le courant ne passe
pas.
Ben voilà, c'est ça.
Forcément. Hélène, c'était un plaisir de pouvoir parler avec vous. Pardon, mais on va passer à l'information là tout de suite sur RTL, donc j'ai un timing à respecter. Mais néanmoins, je voudrais vous remercier et vous inviter à nous écouter jusqu'à 15h30. Le professeur Pellissolo, professeur de psychiatrie, va nous rejoindre juste après le flash. Et alors, vous en avez des copains, Hélène, et des copines, parce que je peux vous assurer que le standard, là, explose. Donc tout le monde, visiblement, a besoin de se faire du bien. Moi, je vous embrasse, Hélène, et je vous remercie d'avoir passé ce moment-là avec nous. Prenez soin de vous, surtout. Et nous, on se retrouve dans un instant, Flavia. À tout de suite sur RTL.
RTL, on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Ah là là, Alexandre de Saint-Aignan. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 15h30 en votre compagnie. Flavia Mazelin est notre invitée. Elle est rejointe par le professeur Antoine Pellissolo que j'accueille sur cette antenne. Bonjour professeur.
Oui, bonsoir, bonjour.
Oh bah, non, bah, ça dépend de l'heure qu'il est. Chez nous, il est 15h05, hein, je ne sais pas chez vous.
Ouais,
on est lundi, professeur. Vous êtes psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor à Créteil, auteur d'un ouvrage « Vous êtes votre meilleur psy » chez Flammarion. On a vraiment quand même besoin de votre éclairage. C'est normal que notre standard explose sur ce sujet, justement, de ce manque d'amour, de ce manque de bienveillance que l'on a parfois vis-à-vis de nous-mêmes.
Ça fait partie vraiment des questions essentielles de la psychologie, hein, tout bêtement. C'est le rapport qu'on a à soi-même et puis surtout l'image qu'on a de soi-même et avec laquelle il faut tant bien que mal faire sa vie avec les hauts et les bas de cette image de soi.
Alors, on accueille Sophie, si vous le voulez bien. Flavia Mazelin, vous restez à notre écoute, bien évidemment. Et puis, dans un instant, on pourra discuter tous ensemble. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Ah ben bah dites donc, vous avez appelé le 3210, hein, vous aviez besoin qu'on vous fasse un peu de bien.
C'est ça.
Oh là là, je vais vous lire un message qu'on a reçu de Sandrine. Quand je suis maladroite, que je fais une bourde ou une erreur, même minime, je me traite de tous les noms tout haut. Mon mari m'a fait remarquer
c'est
à
ça.
Quel point je suis difficile envers moi-même. Jamais je ne dirai à quelqu'un d'autre, non mais quel imbécile, et encore, là c'est pour être poli, s'il fait tomber un verre par exemple, j'ai l'impression que c'est toute une reprogrammation mentale à refaire tellement c'est naturel. Est-ce que ça vous parle ça?
Alors oui, sauf que moi, alors bizarrement, je m'appelle pas par tous les noms. Je reprends mon nom de jeune fille quand je fais une bêtise.
Oh là là.
Et pas mon nom de femme mariée.
Vous engueulez comme quand vous vous essayez de disputer quand vous étiez petite.
Même pas, parce que en fait, mes parents n'ont pas mis la pression, n'ont pas grondé. Mais tout de suite, c'est mon nom de jeune fille qui revient. Et ma mère m'a fait la remarque justement la semaine dernière en me disant « C'est marrant parce que tu t'appelles par ton nom de jeune fille, mais pas par ton nom de femme mariée. »
C'est fou,
donc,
ça.
Donc c'est vraiment... c'est bizarre. Je ne m'explique pas.
Alors, vous ne vous expliquez pas ça. Et puis, vous nous avez quand même écrit « J'ai une très basse opinion de moi-même ».
Ouais.
C'est-à-dire...
Ah oui, non, j'ai pas du tout confiance en moi. Pour moi, je ne sers à rien. Je commence tout, mais comme je finis rien, j'ai l'impression de pas aboutir à mes projets. Donc c'est vrai que, et pourtant j'ai deux enfants où il faut que je sois là, puisque du coup, j'ai un petit garçon en situation de handicap, donc faut vraiment que je sois au taquet tout le temps. Donc, je me supporte pas, et aussi bien psychologiquement que physiquement en fait.
C'est-à-dire?
Des idées noires parfois. Voilà, donc une très basse opinion de moi-même.
Quand vous parlez physiquement, c'est-à-dire ?
Bah, je me trouve pas comme j'aimerais être. Enfin, c'est très compliqué. J'ai peur que j'ai l'impression d'être jugée tout le temps, en fait.
Par qui ?
Mon entourage. Mon entourage, des gens que je peux croiser. Voilà.
Alors, c'est une impression ou c'est une réalité ?
Là, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Enfin, là, par exemple, j'ai été m'acheter des affaires aujourd'hui. Je me suis dit, je vais me faire plaisir. Mm-hmm. Et tout de suite, ça a été dit. Enfin, je me suis dit, ouais, mais alors, attends, est-ce que si tu mets ça, comment tu vas être perçue ? Est-ce que ça va être bien ? C'est pas forcément est-ce que ça va me plaire à moi, c'est est-ce que ça va plaire aux autres. Vous voyez ? Parce que pour moi, rien ne me va. Enfin, c'est. Oui, c'est. Mais c'est épuisant, en fait.
Bien sûr,
de vivre comme ça, c'est épuisant.
Vous avez deux enfants. Quel âge ont-ils ?
Alors, Nathan a 9 ans et Quentin a 4 ans et demi.
D'accord, ok. Admettons que Nathan, un jour, vienne vous dire, maman, moi j'ai l'impression que je ne sers à rien et que de toute façon, il n'y a rien qui me va.
Qu'est-ce que vous lui dites ? Parce que du coup, il est hypersensible.
Qu'est-ce que vous lui dites quand il vous dit ça ?
Mais je lui dis, mais n'importe quoi, je lui remonte le moral et alors je le gronde pas, mais ça me fait du mal moi en tant que maman.
Mais vous trouvez qu'il arrive plus à le rassurer
lui que moi en fait.
C'est ça. C'est-à-dire que vous allez lui dire, s'il vous dit maman à 9 ans, maman de toute façon je sers à rien. Vous allez lui répondre, mais Nathan, t'as complètement craqué, quoi. C'est n'importe
c'est
quoi
ça.
Ce que tu racontes.
Exactement.
Et j'imagine que dans ces moments-là, vous le valorisez.
Ah bah oui, tout le temps. Enfin,
vous lui
déjà
expliquez.
Donc il est hypersensible, il est multidis et TDAH. Donc voilà. Donc il a une très faible, il n'a pas du tout confiance en lui. Et en plus, c'est un petit garçon qui est très angoissé. Donc il est tout le temps dans le jugement, ça va être
donc vous allez le valoriser dans ces moments-là, vous allez lui expliquer toutes les qualités qu'il a.
Tout le temps.
D'accord. Bon, bah dans un instant,
je n'arrive pas à le faire moi-même.
Ben voilà, dans un instant, vous allez nous expliquer pourquoi vous pouvez le faire pour votre petit garçon et pas vis-à-vis de vous.
C'est ça.
Et puis on en parlera avec Flavia Mazelin et le professeur Pénissolo. À tout de suite.
15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Hélène, je vous ai lu le message d'Hélène, donc voilà, je ne l'ai pas barré, donc ça n'est pas la peine. On me dit que je suis très dure envers moi-même, nous écrit Élise. C'est vrai que j'aide les autres à relativiser leurs attentes ou leurs déceptions, mais c'est tellement plus difficile de le faire avec les miennes. Sophie, vous êtes en ligne avec nous et vous m'avez dit un truc qui m'a vraiment touchée. Il y a un instant, vous m'avez dit « Moi, j'ai l'impression que je ne sers à rien. »
Et ça
me rappelle mon chemin parcouru aussi, parce que j'ai eu à mon endroit, et j'ai encore parfois à mon endroit, des mots qui sont absolument épouvantables. Flavia Mazelin, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes journaliste à Psychologie Magazine. Le professeur Antoine Pellissolo, qui est psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor à Créteil, nous a rejoint. Je vais vous demander, et l'un et l'autre, de réagir au témoignage de Sophie. Flavia Mazelin.
Oui, là, ce qu'on entend, c'est vraiment de la pure maltraitance. Hein. C'est ne pas s'accorder la valeur, je dirais minimale, le droit à exister. Alors, ça, il faudrait évidemment chaque cas est particulier. Il n'y a pas d'analyse générique. Hein.
C'est à
chercher dans une histoire, dans l'inconscient aussi de cette histoire. Mais la première chose, c'est que elle a. Quelque chose en Sophie sait et a envie de lutter contre ça, puisqu'elle a dit je ne vais à bout d'aucun de mes projets, et elle a fait une transition, puis elle a dit j'ai deux enfants. Et dans ce rapprochement, on voit bien qu'elle est allée au moins au bout de deux merveilleux projets.
Absolument.
La maternité par deux fois, qu'elle donne beaucoup d'énergie à son petit garçon, lui remonter le moral, à le valoriser.
Exactement.
Alors s'il y a au monde quelque chose de plus utile que ça, moi j'aimerais bien le savoir.
Voilà. Je suis d'accord avec vous.
Déjà, donc Sophie, il faut vraiment oublier cette idée de d'utilité où on se jugerait comme si on était une PME avec sa performance, sa compétitivité, et puis surtout les comparaisons avec les autres. Ben en soi, non seulement vous êtes utile, mais vous avez réalisé deux merveilleux projets de maternité. Mmh. Et voilà, donc à partir de là, c'est, il me semble, et là je laisserai la parole au professeur Pellissolo, il me semble que s'appuyer sur des choses qu'on a réalisées, qu'on a concrétisées de positives et de vraiment les intégrer, voilà, peut aider à changer son, sa position, voilà, à changer ses croyances sur soi.
Professeur Pellissolo, vous avez entendu, hein, Sophie, elle peut aider son petit garçon, mais elle ne peut pas s'aider soi-même. C'est ça le plus difficile dans la vie?
Oui, enfin, en tout cas, c'est toujours ce qui est compris comme ça de l'extérieur quand on se demande pourquoi on n'arrive pas à avoir cette relation qu'on peut appeler auto-amicale avec soi-même, c'est-à-dire d'être dans la bienveillance, dans l'acceptation, alors qu'on peut l'être avec des amis, évidemment, avec sa propre famille. Donc vraiment, ce dont souffre Sophie, c'est ça, ce qu'on appelle une faible estime de soi, alors qu'il peut en effet s'expliquer par beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je dirais, avec mon petit regard de clinicien, quand même, d'être sûr qu'il n'y a pas une dépression, quand même, sous-jacente, parce que dans une dépression, on a ce type de pensée, hein, qu'on ne sert à rien, qu'on ne vaut rien. Donc, bon, soit c'est vraiment très ancien et par ailleurs, il n'y a pas d'autres signes de dépression, donc tant mieux. Soit si ça, y a par moment, en tout cas, tendance à s'accentuer, bon, c'est pas mal de peut-être d'en parler avec quelqu'un qui pourra faire un petit diagnostic là-dessus. Mais sinon, le reste, c'est vraiment ce problème d'estime de soi. Et je pense que j'ai entendu aussi, elle disait tout à l'heure, en parlant, je crois, des courses ou des courses pour les vêtements, auxquelles elle faisait allusion, de tout de suite je vais être jugé, ça va pas m'aller, on va mal me considérer. Et c'est ça le problème d'estime de soi, c'est d'avoir une image de soi qui dépend du regard de l'autre, et surtout sur des choses qui sont souvent assez superficielles. Donc pour avancer, il faut déjà avoir l'idée que comme le disait d'ailleurs Flavia Maslin tout à l'heure, on n'a pas à être utile comme ça de manière globale. Personne ne sert à quoi que ce soit, en fait, dans la réalité, si on a une vision comme ça très globale, on a besoin d'analyser les choses en détail. Et donc, on ne peut pas avoir une image de soi unique. Et donc, dans ce cas-là, elle risque d'être négative, parce que c'est souvent tout ou rien. Il faut s'apprécier tel que l'on est, avec sûrement des défauts, mais aussi plein de qualités que Sophie pourrait se trouver si on lui demandait un peu ce que vous avez demandé tout à l'heure à Hélène. Quelles sont vos qualités? Et je suis sûr qu'en étant un petit peu objective, elle pourra en trouver facilement.
Sophie, est-ce que l'on vous fait des compliments? Est-ce que votre mari, si vous avez un mari, est à vos côtés et vous valorise? Est-ce que vous avez un entourage aussi bienveillant?
Oui, alors ma maman, qui est mon pilier et mon modèle. Mmh. Donc, quand vous demandiez à Hélène s'il y avait des personnes avec qui elle était elle-même, avec ma maman, j'arrive à ce que ma personnalité reprenne. Elle me prend quand il y a des hauts, quand il y a des bas.
Super, c'est bien. Voilà. C'est précieux.
Maintenant, mon mari aussi, même si j'aimerais avoir plus de reconnaissance de sa part. Il va avoir de la reconnaissance, mais par rapport aux autres, si d'autres personnes lui posent la question, il va plus facilement leur en parler qu'à moi, à le dire en disant oui, c'est bien. Enfin, voilà.
Vous aimeriez qu'il vous dise ce qu'il dit sûrement aux autres, quoi.
Ouais.
Qu'il vous le dise à vous, quoi. Mais vous lui avez dit ça, que vous aimeriez l'entendre?
Non, parce que je veux pas passer, encore une fois, c'est du jugement, je veux pas passer pour la personne qui réclame. Et
c'est votre mari, c'est l'homme qui vous aime, qui vous a fait des enfants.
Oui, mais...
mais je comprends.
Voilà, c'est pas évident, en fait.
En fait, vous n'êtes pas très sécure, comme on dit. Hein. Avec votre maman, oui, en même temps,
oui.
Voilà, parce que ça, c'est quand la relation est belle, c'est vrai qu'on doit se sentir, j'imagine, très en sécurité.
Vos enfants vous aiment. Mais ça n'a pas toujours été comme ça non plus.
Oui, je comprends. Bon, il y a tout un travail à faire, en tout cas. Hein. Vous n'êtes pas accompagnée aujourd'hui. Vous ne voyez pas de psy?
Si.
Bon, ça c'est bien. Donc vous prenez les choses en main.
Comme le docteur a dit, je suis en pleine dépression. Donc il y a ça aussi qui joue. Et heureusement qu'il est là pour m'épauler et pour me faire réfléchir à mon utilité. Même si on n'a pas d'utilité, mais
En tout cas,
voilà, heureusement qu'il est là.
En tout cas, c'est peut-être pas une question d'utilité, mais c'est une question, en fait, de présence. Et vous l'avez vraiment été aujourd'hui. Donc vous voyez, vous n'êtes pas une question d'utile, mais c'est, voilà, vous avez été présente dans cette émission et c'était intéressant de parler avec vous. Et voilà, et j'espère que tout ça va aller évidemment dans le bon sens. Mais moi, je suis persuadée que déjà en avoir conscience, c'est déjà mettre un pied devant l'autre. Et puis, vous êtes bien accompagnée. Alors, je vous embrasse bien fort.
Moi aussi.
Je vous remercie d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous, Sophie. D'accord ? À bientôt sur RTL. Je vous embrasse.
RTL. On est fait pour s'entendre. 14h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL.
Voilà, je sais que vous nous écoutez tous et que vous êtes bien attentifs aux conseils éclairés de nos invités. Tiphaine nous demande, professeur Pellissolo, si tout cela est typiquement féminin. La remise en question, cette idée que l'on se dénigre, on s'auto-sabote en permanence.
Alors moi je dirais vraiment absolument pas. Alors peut-être on est plus familier à l'entendre dire par des dames, des femmes, parce que voilà, elles ont plus probablement de capacité à se confier, en tout cas dans certaines conditions. Mais les hommes ressentent la même chose. En tout cas nous, ce qu'on retrouve dans des consultations, ce discours-là, on le retrouve. Alors il va se manifester par plus en général de petit peu de repli sur soi, d'actes un peu plus violents parfois avec eux-mêmes aussi. Mais vraiment, je crois que ça, c'est universel. Hein, la fragilité de l'estime de soi, on la retrouve chez tout le monde.
Quand il s'agit des enfants, Camille nous parle de son petit garçon de 7 ans qui se met toujours une pression dingue, très exigeant envers lui-même. Qu'est-ce que l'on peut... Elle dit, que peut-on faire avec des enfants comme ça ?
Alors, il est là vraiment, il est très important de pouvoir le repérer, puisque c'est justement à cet âge-là qu'on va essayer de trouver, je dirais, quelques assouplissements. Bon, on peut penser que certains enfants, quasiment constitutionnellement, hein, ce qu'on appelle le tempérament, ont plus d'exigences d'une certaine manière. Mais c'est vrai que les aspects éducatifs sont quand même très très importants aussi après. Donc vraiment leur montrer que on a, et vraiment ça rejoint tout ce qu'on a dit depuis le début, leur montrer qu'on aura toujours de l'amour pour eux, quoi qu'il arrive. Par exemple, en cas d'échec à l'école, en cas d'erreur ou de choses plus ou moins graves, même s'ils n'arrivent pas à être les meilleurs au foot ou au tennis, enfin il y a des choses qui ne sont pas liées à la réussite à tout prix, mais que par contre il faut valoriser des choses, parce que l'éducation ça sert aussi à ça, valoriser les efforts, valoriser une forme de motivation, pourquoi pas, mais pas le résultat pour lui-même et quelque chose qui serait évidemment un risque de rejet, de sentiment de rejet si on n'y parvient pas à ses objectifs.
Professeur Pellissolo, vous avez entendu Flavia Maslin nous donner tout à l'heure quelques conseils que l'on retrouve dans Psychologie Magazine. On va y revenir dans un instant. Quel est celui que vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent et qui sont en mal de bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes ?
Alors, je crois que une des choses essentielles, c'est de ne pas être dans un raisonnement, comme on dit toujours, en tout ou rien. C'est-à-dire, on peut s'apprécier, on peut avoir une certaine volonté de réussir sans être dans l'exigence à tout prix. Et donc, on peut se donner des objectifs de faire un peu mieux. Je crois qu'être exigeant avec soi-même, c'est pas forcément du tout un défaut et quelque chose de néfaste. Par contre, c'est la rigidité, c'est-à-dire l'excès, vouloir atteindre quelque chose de vraiment quasiment, enfin réellement inaccessible. Bon, c'est un peu la différence entre ce qu'on appelle l'admiration pour quelqu'un et l'estime pour quelqu'un. Il vaut mieux être dans l'estime pour soi, c'est-à-dire s'accorder le droit à l'erreur, mais être présent et exigeant envers soi-même pour faire un peu mieux, mais pas d'être de volonté de perfection, quoi. Parce que très souvent derrière cette dureté avec soi-même, il y a un excès de perfectionnisme en tout cas.
Alors dans Psychologie Magazine, Flavia Maslin actuellement en kiosque, il y a des conseils comme effectivement tenir ce fameux journal d'autocompassion dont vous nous parliez un petit peu tout à l'heure, savoir aussi se parler différemment, pratiquer le toucher soutenant. Alors ça, bon, moi j'adore, hein, vous le savez, hein, mais apprendre effectivement à poser ses mains sur soi peut-être et à pouvoir se consoler, s'étreindre d'une certaine façon et se faire du bien. Écrire aussi pour se libérer, on sait à quel point c'est important, on le retrouve donc dans le magazine actuellement en kiosque. Et puis vous savez qu'on a pensé à vous hier, à toute l'équipe de Psychologie Magazine qui pleure, j'imagine, comme nous tous, le décès de Jean-Louis Servan-Schreiber. On l'avait reçu en fait il y a quelques années sur un sujet, Flavia Maslin, qui était magnifique et il avait été absolument brillant, c'est comment profiter pleinement de sa vie. Et ça nous a émus de repenser à ça en arrivant au bureau aujourd'hui.
Oui, merci, je suis très touchée par vos pensées, cette attention. Oui, effectivement, Jean-Louis, comme on l'appelait avec familièrement, mais pas avec familiarité, C'était le grand patron de presse que tout le monde connaît, qui a fait le succès incroyable de Psychologie. Mais pour nous, ses équipes d'hier et d'aujourd'hui, c'était quand même cet homme à l'écoute, bienveillant, mais sans démonstration excessive, aucune démagogie, aucune. C'était un homme de communication. Voyez, c'était une authenticité, une exigence, une curiosité, et aussi une confiance qu'il nous accordait et nous poussait avec fermeté, mais toujours avec humour, à donner le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, c'est, on a eu la chance de travailler à ses côtés pendant 10 ans. Et ça nous a tous et toutes marqués profondément et durablement.
Et on est riche de ces rencontres-là, évidemment.
Oui.
Et de ces collaborations-là.
Ah. Oui, vraiment.
Merci beaucoup, Flavia Maslin.
Merci à vous, Flavia.
De nous avoir reçus aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. Hein. Je rappelle, Psychologie Magazine actuellement en kiosque. Professeur Pellissolo, vous êtes votre meilleur psy. Je ne vous parle pas à vous parce que vous, c'est votre métier. Mais c'est votre ouvrage aux éditions Flammarion. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation pour nos auditeurs. Merci à tous pour cette heure passée ensemble et pendant laquelle on a encore tant appris sur nous-mêmes. Je vous donne rendez-vous demain à 14h30 pour de nouveaux échanges et de nouvelles réflexions. Dans cette attente, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À demain sur
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.